C'est le podcast MLB de The Free Agent. Bonjour à tous, c'est Charles de The Free Agent, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de MLB parce que oui, même si c'est le lockout, il y a quand même des choses à dire. Et en particulier sur toutes les négociations qui ont eu lieu et qui vont avoir lieu pour cette fameuse convention collective que chacun espère avoir de son côté, être plus favorable pour les uns que pour les autres, et pour pouvoir enfin reprendre une vie normale, une vie de baseball à partir du mois de février, mi-février, avec le début du spring training. Alors, rappel des faits très rapidement. On le sait, depuis le 2 décembre dernier, c'est le lockout. Le lockout, qu'est-ce que c'est ? C'est la grève, l'arrêt total de toutes les activités baseball pendant une période de temps, la période durant laquelle les deux parties, à savoir la MLB et la MLBPA, c'est l'union, le syndicat des joueurs, qui doivent se mettre d'accord sur une nouvelle convention collective. Tant qu'il n'y a pas de convention collective signée entre les deux parties, eh bien, il ne se passe rien. Pas de match, pas de communication entre les joueurs. Il y a des plein de conséquences, et sur notre dernier épisode, on en a parlé de toutes ces conséquences. Le 13 janvier dernier, il y a eu des nouvelles négociations. Alors, elles n'ont absolument rien donné, parce que sinon, on n'aurait pas ce débat-là aujourd'hui. La MLB et les propriétaires ont fait de nouvelles propositions, notamment financières, qui n'ont absolument pas plu à l'union des joueurs, qui l'ont trouvé même assez irrespectueuse envers eux, et qui ont donc prolongé le lockout. Mais petit rebondissement, car oui, il y en a un. C'est lundi. Lundi, la MLBPA, l'Union des joueurs, va faire une contre-proposition à celle faite par les propriétaires avec ses volontés pour la prochaine convention collective. Alors évidemment, on imagine que l'essentiel de cette contre-proposition tiendra sur des aspects extrêmement financiers. Là, encore une fois, on ne va pas se mettre à parler de nombre d'équipes qui seront en play-off, par exemple, ou alors sur le frappeur désigné universel. Ce ne sont pas ces choses-là qui vont être négociées, parce que ce n'est pas là où les joueurs ont envie de progresser. La dernière convention collective qui a été signée en 2016 a été largement favorable aux propriétaires. La partie économique a été très très bonne côté propriétaire, elle l'a été beaucoup moins pour les joueurs. Donc pendant 5 ans, les joueurs ont accumulé une espèce de rancœur, une espèce de volonté farouche de s'opposer aux propriétaires lors de la prochaine négociation. Et c'est ce qui en résulte aujourd'hui de cette situation. C'est qu'en août dernier, lors de la dernière proposition, ça n'allait pas non plus. Les joueurs sont prêts à se battre. Alors à savoir jusqu'où ils iront, c'est là toute la question. Parce que si on repousse évidemment le début de la saison, des matchs vont être perdus. Donc c'est du salaire en moins aussi pour ces joueurs-là. Donc à savoir jusqu'où ils seront capables d'aller. Et c'est sans doute la stratégie aujourd'hui des propriétaires et de la MLB de pousser les joueurs dans leur retranchement, de savoir jusqu'où ils sont prêts à aller. C'est le sentiment que j'en ai aujourd'hui, c'est que cette stratégie de la MLB est très claire dans ces négociations, c'est de minimiser au maximum les concessions que devront faire les propriétaires vis-à-vis des joueurs. Cette stratégie de verrouillage de la part du bureau du commissaire, elle semble conçue autour d'un seul et même objectif. Minimiser le montant que les propriétaires doivent abandonner, les concessions qu'ils devront faire. Si en tant que propriétaire, vous attendez jusqu'à la dernière minute, on se place de leur côté. On repousse l'échéance petit à petit, eh bien, on peut s'attendre à ce que les joueurs peuvent perdre patience, soient prêts à abandonner certains points de leur ordre du jour. Et donc, in fine, de ne pas donner plus que nécessaire à un instant T et repousser toujours plus le moment où, effectivement, eh bien, il faudra passer à la caisse. Les joueurs, ils veulent du changement. Ils veulent du changement par rapport à la dernière convention collective signée. Est-ce qu'ils sont sérieux? Est-ce qu'ils iront jusqu'au bout? Je pense qu'effectivement, ils sont prêts à rentrer dans ce rapport de force et d'aller suffisamment loin. Ce que les joueurs ont fait jusqu'à présent dans tous les pourparlers, va dans la bonne direction. Ils ont été disposés à dire aux propriétaires, à plusieurs reprises notamment, que toutes ces conventions collectives et toutes les avancées n'étaient pas suffisantes, ce n'était pas assez bien. Et il convient de noter qu'en temps réel, ce qu'il se passe lorsque les joueurs choisissent une autre voie, celle du conflit, vraiment, eh bien, la MLB et les propriétaires ont répondu par le lockout. Et on se souvient, Robert Manfred avait notamment qualifié ce lockout de défensif vis-à-vis des attaques assez fortes de la part de l'union des joueurs. Ça ne veut pas dire forcément que les joueurs ne vont pas ou ne devraient pas tout quitter par rapport à leur position. Mais aucune des deux parties ne s'est approchée d'une proposition de fond. Il n'y a rien eu vraiment entre ces deux parties qui se renvoient systématiquement la balle et qui restent extrêmement campés sur leur position. On est sur une espèce de guerre de tranchées où personne ne veut céder du terrain, vraiment jusqu'à la dernière minute. Mais les joueurs ont au moins été directs avec leur message. Nous avons besoin de plus que ce que la Ligue et les propriétaires sont prêts à nous offrir. Leur position est claire. De l'autre côté, la MLB aussi est claire. Pour elle, la Ligue soutient souvent qu'elle apporte en fait les changements que les joueurs veulent ou voudraient avoir. Les joueurs veulent que les jeunes soient mieux payés. Eh bien, on vous a fait une proposition. Mais comment est-ce que vous pouvez être encore malheureux avec la proposition qu'on vient de vous faire? C'est un peu cette position-là que la MLB tient en ce moment. Alors la MLB a en effet fait des propositions qui abordent techniquement des domaines comme la rémunération des jeunes joueurs. Mais dans la plupart des cas, sinon dans tous, ces concessions ont été minimes et parfois à la limite presque du ridicule et presque de dire « Non mais si c'est vraiment juste pour nous donner ça, franchement c'était peut-être pas la peine de faire ce genre de proposition. » Et puis, ces propositions, elles sont rarement faites de manière isolée. La MLB ne va pas juste proposer « Oui, on propose que les jeunes joueurs soient payés plus tôt dans leur carrière. » Ils vont proposer ça en disant « On accepte ça. Par contre, il faut que vous, de votre côté, vous acceptiez telle ou telle proposition aussi de notre part, ou alors de renoncer à certaines propositions. Et jusqu'à présent, les packages de la Ligue sont venus avec des compromis qui, selon les joueurs, finiraient par aggraver la situation dans l'ensemble ou ne l'amélioreraient pas de manière significative sur du moyen ou sur du long terme. Par exemple, l'une des raisons pour lesquelles les joueurs n'aimaient pas la proposition qui a été faite par la MLB au mois d'août dernier, qui était d'instituer un plancher salarial, donc c'est un, pour expliquer assez rapidement, c'est un minimum de masse salariale à avoir par les franchises. Et l'Union des joueurs souhaiterait que si une franchise n'atteint pas ce plafond minimum, ce plancher minimum, c'est pas vraiment le plafond, c'est le plancher minimum de salaire, de masse salariale, eh bien, il y aurait des pénalités. Comme fonctionne, dans l'autre sens, la luxury tax. Mais cette proposition de plancher salarial, elle comportait des modifications aussi dans la luxury tax qui auraient gravement entravé la free agency. Les propriétaires avaient proposé de relever légèrement le seuil de la luxury tax tout en augmentant simultanément les pénalités en cas de dépassement de cette luxury tax. Donc, en clair, on ne pourra pas payer autant des joueurs au risque de dépasser cette luxury tax et donc de devoir payer des pénalités. Et sur la question de faire payer davantage les jeunes joueurs, de les payer davantage, la MLB continue de proposer de payer les joueurs selon une formule qui, à court terme, pourrait rapporter un petit peu plus d'argent aux joueurs, mais sacrifierait également le processus d'arbitrage salarial. Vous savez, c'est ce mécanisme qui permet aux jeunes joueurs draftés de pouvoir passer devant un arbitre pour avoir une revalorisation salariale. Aujourd'hui, cela est fait à partir de 3 ans de temps de service complet et 5 ans. L'Union des joueurs souhaitait que un jeune joueur puisse passer à partir de 2 ans devant l'arbitrage pour pouvoir avoir un salaire plus élevé. Donc l'objectif déclaré des joueurs est qu'ils auront revendiqué depuis des années est de réaliser au final des gains qui soient substantiels pour les joueurs. Et ne pas simplement déplacer de l'argent dans une espèce de redistribution d'un segment vers un autre. Maintenant, à ce stade, les joueurs demandent toujours sans aucun doute un petit peu plus forcément que ce qu'ils espèrent ou pensent recevoir. C'est le principe d'une négociation, hein. On commence un petit peu plus haut pour avoir finalement un montant plutôt raisonnable. Mais la MLB, de son côté, a dit clairement qu'elle ne touchera pas au domaine clé où des changements peuvent rapporter très rapidement beaucoup d'argent. Donc l'accès à la free agency et le temps d'arbitrage, mais également le partage des revenus que touche la MLB. Donc la volonté des joueurs est claire. Ils n'aiment pas les propositions qu'ont fait la MLB et les propriétaires. Mais chaque jour qui passe, c'est l'ouverture théorique du spring training qui est menacée. On est à 3 semaines à peu près de l'ouverture de ce sprint training. Et plus les jours passent, et moins on a de chances de voir un sprint training qui débutera à temps. Et donc, de fait, un opening day le 31 mars qui potentiellement n'aurait pas lieu. Donc des matchs et une ouverture de saison repoussée, des matchs annulés, et donc des pertes à la fois pour les joueurs, mais aussi pour les propriétaires, parce que c'est de la billetterie qui ne rentrera pas dans les caisses de la franchise. Alors, est-ce que les joueurs, la MLB, les propriétaires, le sport en général, le baseball en général, peut se permettre de voir sa saison 2022 débuter plus tardivement, avec moins de matchs, comme ça a pu l'être en 2020, avec les circonstances qu'on connaît, le Covid, et une saison à seulement 60 matchs? Eh bien pour moi, non. Le baseball ne peut pas se permettre, et la MLB ne peut pas se permettre de voir les négociations et cette guerre d'ego au final, parce que c'est ça ce dont on parle. C'est une guerre d'ego, ce sont deux camps qui sont, et je le répète encore une fois, qui sont campés dans leur position, dans cette guerre de tranchées où non, on ne cédera pas. C'est le premier qui cédera, qui verra l'accord pour lui, au final, sa perception de l'accord complètement faussée. 2020, seulement 60 matchs, des pertes colossales, plus de 8 milliards de dettes accumulées pour les franchises, des pertes de revenus de quasiment 4 milliards de dollars. Billetterie, produits dérivés, tout ce que vous pouvez acheter quand vous allez au stade, ça a été de la perte. 2021, on a vu un rebond. Les gens étaient de nouveau contents de revenir dans le stade, dans les stades, voir leurs joueurs préférés. On a eu une saison 2021 qui a été extraordinaire à tout point de vue, aussi bien dans le positif que dans le négatif. On a eu un très beau champion avec les Braves, à qui on ne donnait pas une seule chance au mois de juillet dernier. On a eu cette histoire de substances collantes avec les fouilles des lanceurs par les arbitres où ça avait viré complètement au burlesque quasiment. On a eu une très bonne saison 2021. On abordait la saison 2022 avec aussi beaucoup d'attentes. Vous qui nous écoutez, moi qui certes là a sa casquette de journaliste mais qui a aussi sa casquette de fan et qui a envie que le 31 mars y ait des matchs de baseball, qu'il y ait de l'action, qu'on ait des home runs, qu'on ait des strikeouts, qu'on ait des excellents jeux, on a envie de tout ça. Mais aujourd'hui tout ça est menacé parce que personne ne semble vouloir faire de compromis. Alors oui, un deal, notamment une convention collective qui va durer pour une certaine période, elle doit avoir la même perception de chaque côté. Si un des deux camps se sent lésé, on est en train juste de repousser, et ça a été le cas du coup avec les différentes conventions collectives qu'on a eues depuis plusieurs années, elles ont été largement en faveur des propriétaires. Elles ont créé petit à petit, elles ont semé la graine d'une volonté farouche chez les joueurs de vouloir, à un moment donné, se poser et de dire non, on n'acceptera pas de nouvelles conditions qui nous soient défavorables. Je pense qu'il n'y a rien de pire dans une négociation si l'un des deux camps se sent lésé. Et cette convention collective, elle ressemble vraiment à un tournant. Théoriquement, les joueurs pourraient échouer et revenir revigorés dans quelques années pour le prochain cycle de négociations et de pourparlers. Une victoire, parce qu'on pourrait appeler ça comme ça, une victoire des propriétaires dans ces négociations ne ferait au final que repousser d'autant plus les effets sur les joueurs d'une telle perte au niveau des négociations pour la prochaine échéance et d'alimenter toujours cette espèce de, on peut prendre une allégorie du monstre qui grossit, qui se nourrit petit à petit de ses frustrations et qui un jour éclateront. Les deux parties, si les négociations lundi échouent à nouveau, et malheureusement j'ai quand même l'impression que ce sera le cas, que ça va échouer, même si j'ai envie d'être optimiste et j'ai envie de me dire que oui, on va avoir des avancées. Parce qu'il faut des avancées. S'il y a des compromis qui sont faits de chaque côté, ça donnera alors une espèce de calendrier, d'énergie et de remise en marche. Voilà, je pense que c'est le bon mot, de remise en marche du baseball de manière générale. Si ce n'est pas le cas, il faudra s'attendre à de vives critiques. Robert Manfred, on le sait, il n'est pas populaire chez les fans. Ça ne pourrait qu'accroître cette frustration aussi de la part des fans de voir leur saison 2021 repoussée parce que faute d'un accord. C'est pas très optimiste, je m'en rends compte, mais c'est probablement le cas, c'est probablement ce qui risque effectivement de se passer lundi prochain. Ça a plein de conséquences et je pense à des joueurs qui sont en pleine réflexion sur leur avenir par rapport aussi à leurs blessures, de savoir comment ils peuvent revenir à leur meilleur niveau. On a des joueurs qui aujourd'hui sont agents libres et donc qui n'ont pas de franchise. On pense à Freddie Freeman, on pense à Carlos Correa qui sont aujourd'hui parmi les joueurs les plus convoités de cette free agency. Mais on va attendre lundi, on va espérer que lundi les deux parties se disent oui effectivement cette proposition, il y a du mieux, on peut peut-être travailler dans ce sens, on peut peut-être remettre en marche le train des négociations et le train de la Major League Baseball pour que mi-février les lanceurs et les joueurs de champ arrivent dans les installations de leur franchise, sourire aux lèvres avec ce soleil du printemps et ces premières chaleurs du printemps qui seront annonciatrices d'une reprise du baseball et du national pastime, parce que le baseball en a besoin. Le baseball n'est pas dans une très bonne dynamique aux États-Unis. Il perd de plus en plus d'audience, plus en plus de plus en plus de fans, notamment chez les jeunes, se tournent vers la NFL, la NBA, le soccer aussi, qui ont plus d'attrait aux yeux des jeunes. Ces négociations sont pas bonnes pour l'image du baseball, très clairement. Donc messieurs, je vous en prie, que ce soit le Monsieur Manfred ou l'Union des joueurs, mettez-vous d'accord. On a besoin d'un accord rapidement pour qu'on puisse revenir à des choses normales et que le 31 mars, on est du baseball et on est les images qu'on a eues, par exemple, au 1er avril 2021 avec cette image magnifique de Miguel Cabrera qui frappe son home run sous la neige. On veut ça, s'il vous plaît. On veut ça. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce podcast, ce podcast MLB. On continuera de vous donner des petites infos comme ça quand elles arriveront. Je pense qu'on fera un petit compte-rendu des négociations en milieu de semaine prochaine pour se dire si oui ou non on aura bien un opening day le 31 mars ou si effectivement on aura... un report et donc moins de 162 matchs sur la saison 2022. En attendant, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur le baseball et sur ce lockout. On y répondra avec grand plaisir dans un podcast si vous le voulez bien. D'ici là, portez-vous bien et à très vite pour un nouveau podcast de The Free Agent sur la MLB. Ciao, ciao.